Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, un sujet, une feuille blanche, 4 heures de solitude, un rituel immuable, celui du baccalauréat. Il a commencé ce matin pour les 750 000 lycéens français avec l'épreuve mal aimée du bac, la philosophie. La culture nous rend-elle plus humains? Peut-on renoncer à la vérité? Voilà pour quelques exemples de dissertations. Ont-ils inspiré nos lycéens, ces sujets? On ira dans un lycée du nord de Paris, puis on va tenter aussi de se réconcilier avec cette noble matière. Notre invité pour décrypter les sujets de l'année 2018, Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Au menu également de ce 13h, la droite qui renoue avec ses vieux démons après le limogeage de Virginie Calmels, la numéro 2 de LR. Valérie Pécresse dénonce les risques de rétrécissement du parti. Les contrôleurs aériens français, champions d'Europe de la grève, mais aussi les moins bien équipés. C'est un rapport très sévère du Sénat qui le dit. La grande injustice des greffes de reins en France. Il faut attendre 5 fois plus longtemps à Paris qu'à Caen pour être greffé. Explication à suivre du service santé. Nous irons également à Valence, en Espagne, suivre l'itinéraire des 630 migrants de l'Aquarius. En Russie, où des hooligans russes et anglais font la paix, au pied du mémorial de la bataille de Stalingrad. Et enfin, direction Paris, nouvelle destination inattendue du prochain Lucky Luke, qui n'était jusqu'ici jamais sorti des États-Unis. La météo, Elodie Calac, un ciel nuageux aujourd'hui, Elodie.
Et oui, avec des éclaircies timides de l'Aquitaine vers le Berry, le Luxembourg, plus belle de la Bretagne jusqu'au nord de la Seine, sur la façade est aussi, et puis en Méditerranée, mais là au prix du vent. Pour les températures, petite hausse avec 19 à 25 degrés et jusqu'à 26 à 30 sur le quart sud-est.
Rendez-vous pour des prévisions complètes en fin de journal. Bienvenue dans le 13h. T'as choisi quoi, toi? T'as dit quoi? Moi, j'ai rien compris au texte. On les imagine déjà à la sortie du lycée, effondrés ou rayonnants, échangeant leurs impressions, pleins de doutes et de certitudes. Les candidats au bac viennent de sortir de leur première épreuve écrite de la semaine. 556 000 candidats exactement pour cette épreuve, la plus redoutée car la plus incertaine. L'épreuve de philo pour le bac général et technologique. Sans plus tarder, on retrouve notre reporter Sonia Bourane en direct du lycée Rabelais dans le 18e arrondissement de Paris. Sonia, comment s'en sont sortis ceux que vous avez croisés à la sortie?
Eh bien, ils étaient surtout soulagés d'avoir terminé. Alors, peut-on être insensible à l'art? C'est ce qu'a choisi May en filière ES, très paniqué en sortant de l'épreuve.
Je crois que je suis aussi stressée qu'en rentrant dans la salle, parce que les résultats, je ne sais pas si je vais réussir. Et vu que j'ai pas de sauté de ligne, ça fait que j'écris beaucoup moins de pages que les autres et je ne sais pas si ça va compter d'avoir sauté des lignes ou pas.
Émile était aussi dans un état second. En filière S, il avait le choix entre le commentaire de texte, un sujet sur l'injustice et un autre sur le désir.
Là, je sors de l'épreuve et je suis un peu sonné, quoi. Enfin, je viens de sortir du truc, j'ai déjà oublié cette école, le nom du sujet. Le désir est-il la marque de notre... C'était quoi le premier sujet? Oui, le désir est-il la marque de notre imperfection? Ouah, j'ai bien blablaté.
Les séries technologiques sont tombées sur le thème de la technique où l'expérience peut-elle être trompeuse, ce qu'a pris Iliès.
En fait, il n'y avait aucun sujet qui me venait à la tête, j'avais aucune idée. Après, j'ai pris le temps et je me suis concentré. J'ai pris sujet à une dissertation. L'expérience peut-elle être trompeuse? J'ai parlé plutôt de comment l'expérience pouvait... En fait, elle servait à quoi l'expérience? Du coup, j'ai assez argumenté par rapport à l'interprétation, le résultat et la comparaison. Et c'est parti tout seul.
Certains candidats ont eu beaucoup de chance, comme Nana.
Hier soir, je me suis documentée avec mon analbac, où il y avait tout un paragraphe sur la liberté. Je suis partie sur Internet en faisant des recherches. Et ce matin, on tombe sur la liberté. C'est cool.
Les candidats vont pouvoir souffler cet après-midi. Certaines filières reprennent dès demain matin, 8h.
Ben voilà, il y en a qui ont de la chance. Sonia Bourane avec les moyens techniques de Jean-André Giannichini. N'oublions pas aussi que les bacheliers du bac pro passaient le français ce matin, 195 000 lycéens. Et puis cet après-midi, à 14h exactement, dans moins d'une heure maintenant, ce sera au tour des premières générales et des technos de passer également le français. Toute la semaine, les épreuves vont s'enchaîner. Maths, éco, histoire, géo. Une semaine de stress, de fatigue, de fierté ou de joie même, ça peut arriver. motivés. Écoutez le témoignage de ces bacheliers recueillis par Sandrine Houdin juste avant de commencer les épreuves. Ils s'appellent Ornella, Tania et Simon, filière ES, économie et sociale, qui viennent de découvrir que le bac, c'est pas que du blabla, ça se prépare un peu.
On l'a pas vu venir?
Non, je sais pas, il est arrivé comme ça d'un coup.
On était peinards en septembre et puis voilà. Il nous est tombé dessus.
Il y a même un mois, je me disais, mais j'ai le temps, vas-y, la révision tranquille. Là, c'est mort, là. Là, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de j'aurais dû réviser, c'est démerde-toi, c'est tout. On est cons, quoi. On dit tous qu'on aurait dû s'y prendre avant, quoi. C'est. Voilà.
C'est chaud. Je crois qu'on est 800 000 dans la même merde. Plus on commence par le bac de philo, quoi.
Oh là là, le pire, mon dieu.
Je pense que c'est pas une matière qu'on devrait mettre en bac.
Pourquoi?
C'est tellement dépendant du correcteur. Imaginons que notre correcteur, il s'est fait plaquer par sa femme. Par exemple, si c'est un sujet sur le bonheur. Mais il s'en fout du bonheur, il est dans le mal.
Et vous, la philo? Donc vous êtes flippé.
Ah mais là je prends des antistress tous les jours depuis une semaine, là je stresse, je panique, vraiment.
Et vous?
Quand je me réveille j'ai la boule au ventre et la nuit je dors mal. On commence à s'imaginer, imagine on n'a pas le bac.
Pour vous c'est cauchemar absolu?
C'est pas possible, oh mon dieu. Non, c'est pas possible.
Le pire qui pourrait se passer pour vous?
Le pire c'est d'avoir aucune connaissance sur le sujet. J'ai très peur de l'échec, j'ai peur de justement de aussi décevoir ma famille et mes parents. Parce que ici ils m'ont payé des cours particuliers, ils vont me dire tout ça pour rien. Ça me fait la peine en fait pour eux, ça me fait quelque chose.
Moi j'ai quand même bossé, j'ai travaillé, mon seul problème c'est la méthode. Je connais mon cours, mais par exemple un plan, je bloque. J'ai eu un à mon bac blanc d'histoire tout simplement parce que j'ai réussi à faire qu'une phrase d'accroche. Là c'est pas un bac blanc quoi, c'est le bac.
Et c'est quoi le bac?
C'est la fin de la petite enfance, la fin de l'école. Pour moi le bac c'est une fierté quoi.
Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise là?
Merde. grosse merde.
Ben voilà le mot fatidique qu'il faut prononcer. En effet, Sandrine Houdin, on espère que Ornella, Tania et Simon vont bien arriver à l'heure ce matin. Sont bien arrivés ce matin à l'heure. Deux syndicats ont maintenu en effet leur mot d'ordre de grève, vous le savez, aujourd'hui à la SNCF. La SNCF qui avait anticipé le coup et proposé un dispositif spécial examen avec gilet rouge dédié, quart de substitution et même taxi sur commande, a priori par de grosses galères pour la très grande majorité des candidats. Allez, revenons maintenant à notre sujet du jour, la philo, cette épreuve si typiquement française. Pour en parler avec nous en studio, Michel Elchaninov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Philo Magazine. Ne tardons plus, pêle-mêle quelques exemples du cru 2018, donc on en parlait tout à l'heure. La culture nous rend-elle plus humains? Peut-on renoncer à la vérité? Toute vérité est-elle définitive? Peut-on être insensible à l'heure? Et celui que j'aime beaucoup, le désir, est-il la marque de notre imperfection? Vous en pensez quoi en général de cette mouture 2018, plutôt bien posée, j'allais dire facile, difficile, attendu les sujets?
Profond, c'est-à-dire que ce sont des sujets assez généraux, assez larges, vous voyez, la culture nous rend-elle plus humains, ce sont pas des termes très techniques en quelque sorte, et en même temps ça touche à des choses qui nous concernent. Peut-on être insensible à l'art? Bah oui, il y a des gens qui détestent aller au musée. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Bah est-ce qu'on peut savoir ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste tant qu'on n'a pas soi-même été victime de l'injustice? Donc c'est des sujets que je trouve qui vont assez loin dans ce qu'on peut vivre ou ne pas vivre. Donc ce sont des très bons sujets.
Il y a un exemple qui moi me touche beaucoup, en tout cas je trouve très beau, c'est le désir est-il la marque de notre imperfection? En quelques mots, comment on problématise tout ça?
En fait, il faut d'abord analyser le sujet et c'est vrai que le désir, on peut déjà le comprendre de deux manières différentes. Le désir, ça peut être considéré comme un manque. Je désire quelque chose parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Et donc du coup, ça veut dire que l'être humain, il lui manque toujours quelque chose. Donc c'est en quelque sorte une imperfection. Mais en même temps, il y a des philosophes comme Spinoza qui nous disent que le désir, c'est au contraire une force. C'est ce qui nous meut, c'est ce qui fait qu'on va en avant et même qu'on crée l'impossible parfois. Donc du coup, dans ce cas-là, si on problématise, on pourrait dire que le désir, qui était la marque de l'imperfection, devient la marque du fait que l'humain parvient à se dépasser. Donc en quelque sorte, une forme de perfection.
Est-ce que vous avez, vous, un sujet qui vous a particulièrement parlé cette année?
Bah écoutez, moi j'étais très frappé par le sujet « Peut-on renoncer à la vérité en elle ?» parce que c'est un sujet qui répond quand même assez directement à la problématique des fake news et de la post-vérité. Vous
tout
savez,
fait, ouais.
Donald Trump qui invente des faits alternatives.
Très contemporain, oui.
Et là, on demande aux bacheliers de réfléchir sur le fait de renoncer à la vérité. Bah oui, parfois, pour son intérêt, on renonce à la vérité. On préfère mentir. Parfois, par amour, on renonce à la vérité. Ou par fanatisme aussi, d'ailleurs. Et parfois, on renonce à la vérité parce qu'on pense qu'il n'y a pas de fait, qu'il n'y a que des interprétations. Et du coup, ces sujets, je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'ils nous interrogent sur des thèmes qui sont aujourd'hui absolument prégnants dans la société.
Alors, je le disais au début, c'est vraiment une matière qui est mal aimée, mal comprise, assez redoutée par les étudiants. C'est une une matière qui est très typiquement française, hein, je crois, qui remonte à l'époque des jésuites, à l'époque de Napoléon Ier, qui en avait fait une obligation pour tout le monde. C'est quoi, en fait, l'idée de la philosophie en terminale?
L'idée, dans la République française, c'est de dire, pendant le collège et le lycée, vous allez apprendre beaucoup de choses en histoire, en sciences, etc. Et la dernière année, juste avant de devenir des citoyens, parce qu'on va avoir 18 ans, on va partir à l'université, etc., on remet tout en cause. On se pose des questions sur ce qu'on a appris. Est-ce que l'histoire nous apprend des choses? Est-ce que la culture nous rend plus humains? Alors que pendant 6 ans, on vient justement de se fader de la culture, en quelque sorte. La philosophie, en France, c'est un peu sacralisé, parce que c'est qu'en terminale, donc c'est dommage que ça soit pas enseigné plus tôt. Mais l'idée, vraiment, c'est maintenant, on réfléchit à tout ce qu'on vous a appris depuis
votre enfance. Liberté de penser, ouais. Il y a des profs qui s'inquiètent de la réforme du bac à venir en 2021, parce que la voilure va être un peu réduite, on va passer de 8 heures à 4 heures par exemple pour les séries littéraires, et puis on va aussi passer 3 heures à 4 heures pour les scientifiques, donc 4 heures pour tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression ou peur que cette matière-là soit sacrifiée sur l'autel de cette réforme?
Oui, il y a évidemment une peur que la philosophie qui soit sacrifiée au nom de l'efficacité. Or, on sait que la philosophie, ça sert à argumenter, ça sert à écouter l'autre, ça sert à discuter, que les enfants qui font de la philosophie, c'est des enfants qui apprennent à respecter les opinions d'autrui, et donc la philosophie, elle est absolument indispensable dans un monde où les opinions se tendent, où tout se crispe. La philosophie, c'est là pour décrisper les choses, pour rendre possible la discussion. Donc je pense que la crainte des profs de philo, elle est légitime.
Elle est fondée. Merci beaucoup Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philo Magazine. Merci beaucoup d'être venu en studio pour nous réconcilier avec cette matière. Et puis toujours au chapitre éducation, le gouvernement a chiffré ce matin le montant des dégâts des blocages d'université pendant le printemps. Un peu plus de 5 millions d'euros selon Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Ils seront intégralement payés par l'État et non par les universités. Au chapitre politique, revoilà la droite aux prises avec son pire ennemi, les divisions internes. On sentait bien depuis le début que la méthode Wauquiez ne prenait pas au sein de LR. Hier soir, une première tête est tombée, celle de Virginie Calmels, la numéro 2 chez les Républicains. Virginie Calmels remplacée par Jean Leonetti. Elle ne cachait pas ses différences avec la ligne du président. Ce limogeage est normal et juste pour les lieutenants de Laurent Wauquiez. Une décision, en revanche, que ne partage pas une autre figure féminine importante du mouvement, Valérie Pécresse.
Je me suis inquiétée il y a 6 mois du rétrécissement de notre famille politique. C'est un danger, c'est une menace pour la droite française. Et ce danger, cette menace, ils existent depuis 6 mois. Notre objectif dans Libre, c'est justement d'élargir la droite et de l'élargir par les idées et par les propositions. Les Français en ont assez des querelles de politique politicienne. Donc je ne rentrerai pas dans ces querelles. Je rentrerai dans le débat d'idées, dans les propositions. Donc nous, c'est sur les idées que vous nous trouverez pour élargir la droite et rassembler les deux droites.
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Bonjour Estelle Schmitt.
Bonjour.
Vous étiez à sa conférence de presse normalement dédiée à ses propositions sur l'Europe. Alors certes, rien de fracassant dans ses déclarations, mais la différence avec Virginie Calmels, c'est le poids politique de Valérie Pécresse qui peut être une menace pour Laurent Wauquiez.
Oui, Valérie Pécresse se garde bien de taper très fort sur Laurent Wauquiez, le parti, parce que tout simplement, elle n'a aucun intérêt à le faire. C'est par les idées avec du fond qu'elle veut marquer des points. Son mouvement Libre a presque un an maintenant, parti associé au LR, et très régulièrement il fait des propositions sur différents thèmes, Europe aujourd'hui ou encore immigration, toujours quelques jours avant l'équipe de Laurent Wauquiez, ce qui agace un peu d'ailleurs. Libre rassemble une partie de la droite qui ne se reconnaît pas dans le discours officiel des LR, comme Dominique Bussereau ou les candidats malheureux à la présidence du parti, Florence Portelli et Maëlle de Calan. On y trouve aussi des personnalités écartées des instances par Laurent Wauquiez, et le mouvement se structure localement dans les départements. Il revendique un millier d'élus, une sorte de parti bis qui ne se voit pas comme une menace pour Laurent Wauquiez. Quoique, Pierre Licia, élu parisien.
C'est jamais une menace dans la mesure où on apporte des propositions et on participe au débat public. La menace, ce serait de refuser d'entendre de ces propositions, justement. Mais ce serait une menace qui pèserait sur Laurent Wauquiez et pas sur Libre.
Les premiers tests, 30 juin, Conseil national sur l'Europe. Valérie Pécresse compte se faire entendre. Sinon, eh bien, l'un de ses proches n'exclut pas une décision radicale.
Estelle Schmitt du service politique de France Inter. Merci. C'est un grand nom de la résistance. Daniel Cordier, 97 ans, ancien secrétaire de Jean Moulin. Parmi les premiers Français à rejoindre la France libre. Il vient d'être élevé ce matin au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur, une cérémonie à l'Élysée à laquelle, Cyril Graziani, vous êtes un des rares à avoir pu assister.
Et quand vous vous retrouvez face à un monument de l'histoire, un des 5 derniers compagnons de la libération encore en vie sur les 1038 distingués, eh bien vous êtes impressionné comme l'a été Emmanuel Macron.
Se trouver face à vous, c'est immédiatement, irrésistiblement, se trouver face à l'histoire. Et même face à ce que l'histoire a de plus brûlant, de plus douloureux, et bien sûr de plus héroïque.
Daniel Cordier, dans la lignée de ces héros français qu'Emmanuel Macron a décidé de consacrer, des hommes guidés, dit le chef de l'État, par le simple amour de la France.
Tout ce qu'elle représentait à vos yeux, c'est-à-dire le contraire de la lâcheté et de la haine, de l'arbitraire et de l'ignominie dont Vichy offrait le spectacle honteux, le contraire de l'esprit de défaite auquel vous ne vous êtes jamais résigné.
Modeste, humble, après la guerre, Daniel Cordier a 24 ans, il cherche sa voie et c'est grâce à un autre amour que sa vie bascule, l'amour de l'art, qu'il partageait en commun avec Jean Moulin, et c'était d'ailleurs leur couverture pendant la guerre.
Ce qui pendant la guerre avait été votre jardin secret est devenu votre raison de vivre, comme si, fuyant les commémorations et les prises d'armes, vous aviez choisi de cueillir les fruits les plus précieux de cette liberté reconquise, la liberté de créer, d'imaginer, de rêver.
Daniel Cordier était bouleversé, lui le compagnon de la Libération, titre dont il se sentait le plus fier jusqu'à maintenant. En se voyant attribuer la Grand Croix de la Légion d'honneur, il entre un peu plus dans l'histoire.
Cyril Gradiani peut noter que Daniel Cordier sera juste après le 13h l'invité de Jean Lebrun. Témoignage exceptionnel dans moins d'une demi-heure maintenant.
Le journal de 13h.
C'est une profession souvent pointée du doigt. Eh bien, les contrôleurs aériens français ne sortent pas grandis d'un nouveau rapport, celui de la Commission des finances du Sénat. Bonjour Manuel Ruffel.
Bonjour.
Le constat est sévère, en effet, grève à répétition, matériel vétuste, le contrôle aérien français est l'un des plus mauvais élèves en Europe, Manuel.
Et les chiffres sont accablants. Le contrôle aérien français, dit le rapport, est responsable du tiers des retards pour toute l'Europe, alors qu'il ne représente que 20% du trafic. Le contrôle aérien français, c'est aussi les deux tiers des jours de grève en Europe, 67% précisément. Autant dire qu'effectivement, dans le ciel européen, la réputation de la France n'est malheureusement plus à faire. Mais le rapport du sénateur Vincent Capo-Canellas n'incrimine pas les contrôleurs au premier plan, mais surtout la vétusté des outils qui sont à leur disposition. Une nécessité de modernisation indispensable, mais qui tarde et tarde encore, notamment l'arrivée de nouveaux logiciels prévus pour 2015, repoussés à 2023 au moins, pour une enveloppe qui aura dépassé les 2 milliards d'euros. Et puis, il y a les jours de grève avec une spécificité notée par le rapporteur. Les contrôleurs ont tendance à faire grève pour bien d'autres motifs que le contrôle aérien, en particulier pour la défense de la fonction publique. 254 jours de grève ces 12 dernières années. La Grèce, qui arrive juste derrière dans ce classement, en compte 46, 5 fois moins.
Manuel Ruffès du service économique de France Inter. Merci. En Allemagne, on ne badine pas avec le Dieselgate. Le PDG du constructeur Audi, filiale de Volkswagen, a été arrêté et placé en détention. Le parquet qui avait mis en cause le patron d'Audi, Rupert Stadler, pour fraude, estime en effet qu'il existe un risque, je cite, de dissimulation de preuves. Direction Valence, en Espagne. C'est là, vous le savez, qu'ont débarqué hier les 629 migrants de l'Aquarius, après un périple éprouvant de plusieurs jours en Méditerranée. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Ces migrants ont passé leur première nuit à terre. Que sait-on aujourd'hui de leur situation, de leur état de santé, Yann ?
Très éprouvés, ces migrants ont pu enfin se reposer après leur long périple en Méditerranée. La plupart des rescapés de l'Aquarius ont passé leur première nuit en Espagne dans des centres d'hébergement temporaires, notamment dans un complexe sportif situé à une trentaine de kilomètres de Valence, un bâtiment protégé par la police. Ces exilés auront désormais un peu de temps pour envisager une nouvelle vie sur le sol européen, puisque le gouvernement espagnol leur a accordé une autorisation de séjour à titre humanitaire.
Et un permis donc exceptionnel de 45 jours, Yann, donc pour une odyssée très médiatisée. Que va-t-il se passer maintenant pendant ces 45 jours, Yann ?
Eh bien, grâce à ce permis de résidence, ces 629 migrants vont pouvoir rester au moins 45 jours en Espagne, un délai qui leur permettra, s'ils le souhaitent, de faire une demande d'asile. Ensuite, la loi s'appliquera en fonction de la situation de chaque migrant, sachant que la plupart d'entre eux viennent de pays africains comme l'Érythrée, le Soudan, le Nigeria, mais aussi l'Algérie. Les autorités espagnoles examineront leur dossier au cas par cas selon les procédures habituelles. Ceux qui n'auront pas obtenu le statut de réfugié pourront être expulsés. La France a également proposé d'accueillir, vous le savez, une partie des rescapés de l'Aquarius. Des agents de l'Office français de protection des réfugiés viendront dès cette semaine à Valence pour étudier les demandes d'asile des migrants qui voudraient rejoindre notre pays.
Yann Gallic en direct de Valence, en Espagne. Merci. Les anti-80 km/h ne désarment pas. Le décret a été publié hier, mais les associations entendent bien tout faire pour s'y opposer. Ils viennent ainsi de saisir le Conseil d'État, deux associations. La Ligue de défense des conducteurs et l'Automobile Club des avocats estiment que le texte porte atteinte au principe d'égalité entre les automobilistes, au détriment notamment de ceux des zones rurales. Et puis pour Maître Rémi Jossomme, le président de l'Automobile Club des avocats, eh bien le gouvernement impose une mesure sans fondement scientifique.
Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, on prend une mesure générale et absolue qui vient altérer la conduite des usagers, notamment en créant une fracture entre ceux des villes et ceux, j'allais dire, du monde rural. Et derrière, il n'y a aucune expérimentation crédible et sérieuse. Elle est là la difficulté. Nous avions demandé à ce qu'il y ait une vraie expérimentation sur une période significative avec un organe indépendant. Et à l'issue de cette expérimentation sérieuse et indépendante et impartiale, alors oui, on aurait soit pris la mesure, soit réfuté la mesure. Enfin, c'est quand même surprenant. Et le Parlement n'a pas son mot à dire. Bref, on impose des choses. C'est-à-dire qu'on a une poignée de personnes qui sont des technocrates, qui choisissent pour des millions d'autres personnes qui ne sont pas d'accord. À un moment donné, il faut quand même se poser les vraies questions. On n'écoute même pas les parlementaires, on n'écoute pas les usagers de la route. C'est une face un peu arbitraire de notre état de droit.
Maître Rémi Jossomme, interrogé par Delphine Evenoux. Si vous souffrez d'un rein, mieux vaut vivre en Normandie qu'en région parisienne. Quand on attend une greffe, en effet, le délai peut aller de 1 à 5 ans d'attente. Une injustice dénoncée depuis longtemps par une association, Rénalou, qui cette fois a décidé de frapper plus fort et de saisir le défenseur des droits, Véronique Julien.
13 mois d'attente pour une greffe rénale à Caen, 27 mois à Limoges, 59 mois à l'hôpital Saint-Louis à Paris, encore plus si le patient en attente de greffe est d'un groupe sanguin réputé rare. Cette inégalité ne date pas d'aujourd'hui, mais au fil des ans, elle s'aggrave. À l'origine de tout ça, le principe dit du rein local, pratiqué depuis une trentaine d'années. En clair, un centre de greffe qui dispose d'un donneur décédé doit distribuer un rein à la communauté. En revanche, il peut garder le deuxième rein pour ses propres patients. Résultat en Ile-de-France, où la population est jeune, où il y a moins d'accidents de la route et où le refus de dons d'organes est plus élevé qu'ailleurs en France, on dispose de moins de reins disponibles, d'où ces délais d'attente et ce coup de gueule de l'association de patients Rénalou. Magali Léo en est la porte-parole.
Ce que Rénalou souhaite, c'est que l'on abandonne progressivement la pratique du rein local pour que la totalité des reins prélevés soit attribuée selon des critères de répartition équitable en fonction des besoins prioritaires des patients inscrits sur la liste. Donc l'on abandonne cette pratique qui permet de soutenir l'activité de certains établissements au détriment des urgences sur la liste.
Faute d'avoir eu un rein à temps, 300 personnes décèdent chaque année en France. Les autres doivent rester en dialyse 3 fois par semaine à raison de 4 heures par séance. Coût d'une dialyse 80 000 euros par an. Près de 18 000 personnes sont en attente de greffe de rein en France. 3600 greffes sont réalisées chaque année.
Véronique Julia du service Santé de France Inter. On ouvre la page sport et d'abord la page ballon mais ovale cette fois. Pas de panique, la relève est là. En rugby, les Bleuets, les moins de 20 ans, ont été sacrés champions du monde pour la première fois de leur histoire. Ils ont dominé hier soir en finale l'Angleterre 33-25. Des Bleus sur le toit du monde, la meilleure des réponses, Fanny Lechevestrier, à une formation française très souvent critiquée.
C'était la fête cette nuit à Béziers pour célébrer une formation française pourtant systématiquement montrée du doigt ces dernières années pour expliquer les mauvais résultats du 15 de France, d'où la mise au point du jeune capitaine Arthur Coville.
Pour ceux qui disent que la formation française n'est pas forcément bonne en ce moment, c'est sûr que c'est pas le cas parce qu'aujourd'hui on le voit, on est champion du monde.
Avec un groupe qui a eu le temps de se construire à l'abri de la pression, car les Bleuets, c'est du talent bien sûr, mais aussi une bande d'amis qui joue depuis 4 ans dans la stabilité, explique l'arrière Clément Laporte.
C'est l'aboutissement de tout notre travail. Voilà, le groupe il s'est construit petit à petit et ça a créé une grosse ossature et le groupe il a été hyper solidaire tout au long de la compétition. C'est là-dessus qu'on gagne, c'est vraiment un groupe et une bande de copains.
De jeunes rugbymen qui ont cette saison aussi eu du temps de jeu dans les clubs professionnels, conséquent conséquences de la réforme du rugby français qui se met en place. 18 des 23 finalistes ont ainsi déjà connu le haut niveau et n'attendent désormais qu'une chose, grandir pour de nouveau marquer les esprits en top 14, mais aussi en 2023, cette fois-ci au sein du 15 tricolore, lors d'une Coupe du Monde qui se jouera en France.
Fanny Lechevestrier, allez, après le ballon ovale, le ballon rond et la suite du mondial en Russie avec une image inattendue des supporters anglais et russes côte à côte, des hooligans en fait au pied du mémorial de Volgograd, l'ancien Stalingrad, qui se serrent les coudes. Écoutez le reportage de notre reporter Béatrice Duguay.
Le moment est rare, empreint d'une solennité décontractée. Un supporter russe, colosse au crâne rasé, un supporter anglais, noir, en short et maillot de sa sélection, ils déposent ensemble une gerbe de fleurs au pied de la flamme éternelle. Au mur de cet impressionnant mémorial circulaire, les noms des héros de la bataille de Stalingrad, le soldat Golovatchov, le sergent Rupsov, 7200 noms inscrits au total, en mosaïque blanche sur fond pourpre, un symbole de bravoure, un témoignage de dévastation aussi. Modestement aujourd'hui, le message est simple et basique pour Vladimir, le supporter russe du Rotor Volgograd, qui a déposé la gerbe.
C'est très émouvant et ça nous dit que peu importe les nationalités et le reste, les gens comprennent que la paix c'est mieux que la guerre. On est sortis déjà hier avec les fans anglais, c'était sympa, on a bu de la bière, on a chanté, c'était super.
La rivalité des supporters est tellement dérisoire dans un lieu si lourd de mémoire historique. C'est ce que ressent Nick, originaire de Leeds.
Il y a 2 ans à Marseille, j'étais à ce match et il y a eu de gros problèmes entre les supporters anglais et russes. Enfin, des hooligans russes, pas des supporters. Donc aujourd'hui, c'était joli de voir des supporters anglais et russes ici ensemble dans un endroit empreint de respect, dans ce mémorial.
La flamme éternelle, l'immense statue de l'appel de la mère patrie dans ce vaste parc qui surplombe Volgograd, tout un site ici à rester digne. Ces supporters-là l'ont compris.
Volgograd, Béatrice Duguay et Frédéric Cairou, France Inter.
Donc voilà, les Anglais qui affronteront ce soir à Volgograd, les Tunisiens, notés également Suède-Corée dans une demi-heure et Belgique-Panama. On termine avec une bulle de bande dessinée. Il n'avait jusqu'ici jamais traversé l'Atlantique. Le cow-boy le plus célèbre de la BD arrive enfin en Europe et pas n'importe où, en France et dans sa capitale. Le nouveau Lucky Luke se passera en effet dans les rues de Paris. Son dessinateur Jules nous le confirme.
Un cow-boy à Paris, c'est le titre de l'album. Bah, c'est à la fois un Américain à Paris, évidemment, avec cette gaieté qu'il peut y avoir de cette confrontation-là. Et puis en même temps, profondément, c'est Lucky Luke avec tous ses codes du western. Lucky Luke, il lui est arrivé de voyager, mais il n'est jamais sorti du continent américain. On rêvait de le faire découvrir la nouvelle Europe. C'est lui qui va devoir escorter la statue de la liberté. Et il doit d'abord protéger Bartholdi, ensuite escorter la statue jusqu'au port de New York. Très souvent, c'est Lucky Luke qui accueille des étrangers sur ses terres. Et là, il va être amené à découvrir un monde qu'il n'aurait jamais soupçonné. Jolly Jumper vient avec lui. Et instantanément, dès qu'il débarque à Paris, ben, Jolly Jumper, il est baptisé Jolly Jean-Pierre. Il va avoir une grande carrière de star parisienne. Au dessin, c'est comme pour le précédent album, HD, dans la tradition du trait de Maurice. C'est un album qui sera à la fois fidèle à ce grand héritage de Lucky Luke et une immense responsabilité. C'est un personnage patrimonial, mais le fait de rencontrer ces nouvelles icônes, c'est-à-dire à la fois la Statue de la Liberté et évidemment Paris, cette rencontre des trois grands mythes, ça va créer des choses nouvelles à la fois graphiquement et dans le scénario.
Voilà, Jules, Lucky Luke, un cow-boy à Paris. Il était interviewé par Jacqueline Pétrose. L'album sort le 2 novembre prochain.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
La météo, c'est avec Elodie Calac.
Entre le sud-ouest, la Vendée, le massif central, les Ardennes et la Lorraine, ça s'éclaircit un peu. Les éclaircies restent plus discrètes de l'Aquitaine vers la Champagne et l'ouest de la Lorraine. Pour avoir du soleil, direction la Méditerranée, avec du vent. De bons moments de soleil de l'Alsace aux Alpes et à la Corse. Un coup de tonnerre possible sur le sud des Alpes, sur la montagne Corse. De belles éclaircies aussi de la Bretagne vers la Normandie et le nord de la Seine. Ça se gâte à nouveau par la pointe bretonne, un ciel gris qui s'étendra demain de la Bretagne jusqu'au nord de la Seine. On attend 19 à 25 degrés, 24 à Paris, Angers, Dijon ou Montauban. Un cran au-dessus sur le quart sud-est, 26 à 30 degrés. Et puis demain, on gagnera encore quelques degrés.